Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Micro Rebelle Hebdo est diffusé en direct chaque vendredi de 18h à 19h sur micro-rebelle.fr et rediffusé sur les ondes de Radio PFM 99.9, radio associative libre et sans pub, et de Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois.
Et bienvenue donc pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo. Nous sommes en direct des studios de Micro Rebelle à Liévin et nous nous retrouvons chaque vendredi de 18h à 19h. Cet enregistrement est public. Si vous souhaitez intervenir à l'antenne à propos de l'actualité dans le bassin minier ou concernant les initiatives dans lesquelles vous êtes investi, n'hésitez pas, les portes du studio vous sont grandes ouvertes chaque vendredi à partir de 18h. Vous pourrez ainsi rencontrer les animatrices et animateurs de Micro Rebelle, échanger, discuter de l'actualité et donner des idées de reportage. Par ailleurs, chaque Micro Rebelle Hebdo est rediffusé par plusieurs radios hertziennes associatives, membres de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France. C'est notamment le cas de Radio PFM 99.9 et de Radio Plus 104.3. Qui est en studio aujourd'hui? Je fais rapidement un tour de table, sachant que chacun aura l'occasion de mieux se présenter tout à l'heure. Je suis donc Lucien, bénévole militant à Micro Rebelle. Nous sommes avec Luc, également de Micro Rebelle.
Salut.
Luc est salarié à Micro Rebelle. Nos invités du jour maintenant, Jacques Quentin du collectif Fraternité Rome, Anne-Marie Marzin, délégué CGT à Auchan-Noyelles-Godault, Philippe de Cuper, délégué CE-CGT à Auchan-Noyelles-Godault également. On est très... Bonjour à tous les deux. On est très contents de vous recevoir. Hein, vous savez que la lutte dans la grande distribution, c'est un secteur très difficile. Hein, et donc, on est très contents d'avoir aujourd'hui deux militants et militantes d'Auchan-Noyelles-Godault. Et donc, après ces rapides présentations, nous vous proposons, comme chaque semaine, une rapide revue de presse, la presse locale, et la presse alternative. Dans l'avenir de l'Artois de cette semaine, nous avons noté une pleine page consacrée au rapprochement entre maison et cité, bailleur social, et la Caisse des dépôts et consignations. C'est un rapprochement financier. La Caisse des dépôts et consignations prend 34% du capital de maison et cité, soit une participation de 150 millions d'euros. L'objectif annoncé de maison et cité est d'utiliser ces 150 millions d'euros à l'enveloppe consacrée à la rénovation de l'habitat du bassin minier, avec une promesse d'économie d'énergie qui devrait se vérifier dans la facture des locataires, selon Jacques Vernier, président de Maisons et Cités, cité dans cet avenir de l'Artois. C'est donc une bonne nouvelle ? Pas si sûr, rétorquent les élus communistes du bassin minier, et notamment dans cette édition de l'avenir de l'Artois, Christian Champiré, maire de Grenay, qui expose deux arguments. Premièrement, la loi de finances de 2022 ne permettra pas à Maisons et Cités de réussir à financer ces rénovations. Deuxièmement, il y a une réelle crainte que la Caisse des dépôts et consignations injecte de nouveau de l'argent au capital de Maisons et Cités et en prenne le contrôle, ce qui se traduirait par un rachat du bailleur social à peu de frais. Toujours dans l'avenir de l'Artois, une pleine page consacrée à la suppression d'une classe à l'école maternelle des Colibris à Bully-les-Mines. Avec une conséquence immédiate, à la rentrée de septembre, il restera 3 classes avec chacune 33 élèves. Oui, 33 élèves en maternelle. Les parents d'élèves se mobilisent, mais l'inspecteur refuse de les recevoir. Selon lui, ce ne serait pas grave d'avoir 33 élèves par classe en maternelle. La mobilisation continue donc, notamment sous la forme d'une campagne de signatures de pétitions. Voilà pour l'avenir de l'Artois. Vous avez noté que pour chacune des deux actualités que nous avons mentionnées, nous avons indiqué que l'avenir de l'Artois leur avait chacune consacré une pleine page. C'est vrai, mais pour être tout à fait honnête, il nous faut préciser que chaque pleine page contient une photo qui prend la moitié de la page et un titre qui prend un quart de page. Au final, l'analyse de l'actualité ne prend qu'un quart de page. Reconnaissons que la question du logement minier et la question d'une suppression de classe maternelle méritent sans doute un plus long développement et donc une place plus importante. Nous terminons cette rapide revue de presse par la presse alternative, disponible notamment au LAG, le lieu autogéré du bassin minier à Liévin. Chaque semaine, nous vous présentons une revue différente. Aujourd'hui, il s'agit de Courant Alternatif, qui se définit comme un mensuel anarchiste communiste. Dans le numéro du mois de juin, une grande interrogation, la convergence des luttes, oui, mais pourquoi faire ? Courant Alternatif s'interroge sur le sens du mot converger. Est-ce qu'il s'agit de s'allier ? Et pourquoi ? Pour la gestion sociale et humaniste du capitalisme ? Et puis s'allier avec qui ? Courant Alternatif propose de fédérer les luttes autour de questions telles que « Quelle société voulons-nous ? Quelle organisation ? Dans quel but ? Avec qui ?» Ce numéro de juin de Courant Alternatif propose d'autres articles sur les luttes de l'immigration, sur les violences policières, sur la ZAD, ainsi qu'un dossier sur le patriarcat et des articles sur la situation internationale en Palestine et à Mayotte. C'est donc un numéro disponible au LAG, le lieu autogéré du bassin minier. Eh bien, nous vous proposons maintenant une petite pause musicale à travers l'écoute du dernier album de Kristen Jung. Il s'intitule « Little Situation ». Nous en écoutons le premier morceau, « Alone ». bien, nous poursuivons avec l'actualité sur le territoire, avec une première actualité concernant la reprise des expulsions de familles roms. Bien, notre invité aujourd'hui, c'est Jacques Quentin, qui est militant dans le collectif Fraternité Roms Bassin Minier 62. Bonjour Jacques.
Bonjour Lucien.
Alors donc, l'actualité, c'est l'actualité malheureuse, l'actualité dommageable, c'est la reprise des expulsions de familles roms hein, sur le territoire du bassin minier. Alors, peut-être une première question, Jacques. Déjà, est-ce que tu peux nous situer les conditions dans lesquelles les roms, donc qui sont dans des maisons, des mines, des squats, sont hébergés? Autrement dit, typiquement, pour être très direct, les roms, ils prennent la place de logements qui pourraient servir à d'autres personnes. C'est quoi la réalité?
Bon, dans la plupart des cas, non. Ils occupent des logements qui sont déjà inhabités depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. La plupart des logements qui sont utilisés sont aussi des logements qui ne sont pas en réhabilitation pour être à nouveau attribués. Ça peut arriver hein, que cette situation de logement faisant partie d'un ensemble en réhabilitation pour une nouvelle affectation soit occupée par des familles roms, mais ce n'est pas toujours le cas. En général, les familles d'ailleurs s'installent dans des endroits qui sont plutôt un peu isolés, délabrés, alors, en tout cas, ne portant pas préjudice en tout cas, à court terme à d'autres familles qui seraient en attente de logement.
L'eau, gaz, l'électricité?
En général, l'eau parfois est coupée, parfois n'est pas coupée. Le gaz, c'est rare que le gaz soit encore là pour des raisons de sécurité. L'électricité, si elle n'est pas coupée, elle est coupée assez rapidement et parfois les familles sont obligées d'avoir recours à des moyens de fortune pour des branchements irréguliers, mais qui leur sont nécessaires pour subvenir aussi à leurs besoins.
Alors donc cette semaine, hein, il y a une famille rom, hein, un couple, hein, Maria et Prika, qui ont été expulsés. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui. Alors, peut-être déjà dire que je pense que, dans la circonscription préfectorale de Lens, je pense qu'on applique les dispositions gouvernementales de sévérité qui ont été définies par le gouvernement de M. Macron, mises en œuvre en particulier par M. Collomb, le ministre de l'Intérieur. Des familles ont déjà été expulsées précédemment. Là, une famille a été expulsée hier de ce logement. Et d'autres familles ont reçu leur ordonnance comme quoi les mesures qui ont été prises par les tribunaux vont être exécutées plus ou moins rapidement. Bon, parfois, les délais étant parfois très courts, voire parfois de 2 mois.
Alors, bon, je reviens sur Maria et Prika. Ils étaient dans ce logement depuis combien de temps?
Ils étaient là depuis au moins 2 ans.
Alors,
sans électricité et sans gaz, et je ne sais même pas, je pense que peut-être sans eau aussi.
D'accord. Par ailleurs, Prika est malade.
Prika est malade, il est actuellement sous assistance respiratoire, et donc il avait recours à une voisine bienveillante qui avait accepté de tirer un fil entre sa maison et celle où logeait Prika, de manière à ce que son appareil respiratoire puisse fonctionner. C'est encore le cas aujourd'hui, alors que Prika a été expulsé et qu'il vit dans sa voiture devant ce logement. La voisine a encore accepté de tirer un fil depuis sa maison pour qu'il puisse avoir son assistance respiratoire dans sa voiture.
Bien, alors tu évoques un petit peu le fait que Prika est dans sa voiture. Ça veut dire que expulsion, pas de solution, il n'y a pas de relogement, pas de...
Non, et ça moi là non plus je ne comprends pas parce que en principe la loi, je ne sais plus si c'est 2014 ou 2016, mais en tout cas prévoyait qu'il y ait une enquête sociale préalable et que des solutions d'hébergement soient proposées. Moi j'irais plus loin, je dirais imaginons qu'une solution d'hébergement ne soit pas acceptée tout de suite, on pourrait penser que toutes les associations officielles d'accompagnement en tout cas puissent être diligentées pour trouver une alternative qui évite de mettre à la rue ne serait-ce qu'une nuit, deux nuits ou davantage des personnes malades, des personnes des femmes enceintes, des personnes avec des très jeunes enfants. Et c'est ce que l'on voit quand même régulièrement.
Ce qui fait que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a ce couple dans une voiture, dans une situation sanitaire qui n'est quand même pas la plus favorable, et aucune solution en perspective.
Je sais que en tout cas les services du 115, donc de l'APSA, ont été sollicités. Ils ne pouvaient pas intervenir hier, débordés, manque de personnel certainement. Ils n'avaient pas de solution pour hier et ils ont promis de passer aujourd'hui. Je viens d'avoir le couple au téléphone. Là, pour l'instant, personne n'était encore passé.
Bien, alors donc, c'est un couple et tu évoques le fait que ces mesures d'expulsion sont en train de se généraliser sur le territoire.
Oui, ça fait un moment que certaines familles avaient reçu, donc, avaient vécu des démarches d'huissiers leur demandant de quitter les logements. Bon, il y a eu des plaintes qui ont été déposées donc, par les bailleurs, les propriétaires des logements auprès du tribunal qui a statué et a pris en respectant la loi, une décision d'expulsion avec recours aux forces de police si nécessaire. Ce qui fait le plus question, c'est le fait que les familles n'évoquent aucune proposition alternative de relogement, même temporaire, même préalable à d'autres mesures. Et donc mettre à la rue... Je sais que c'est maintenant l'été qui est là, mais mettre à la rue des personnes dans ces situations-là, et notamment les enfants, c'est quand même très traumatisant. Mettre à la rue des personnes qui sont, je veux dire, gravement malades, certaines sont cardiaques, certaines ont des traitements importants, et là on a une situation d'une personne sous assistance respiratoire, je trouve ça quand même en décalage avec les valeurs dont on voudrait se glorifier par ailleurs.
Et tu évoques les enfants, ce sont des enfants scolarisés, c'est quoi la réalité ?
Certains sont scolarisés, d'autres ne le sont pas, d'autres sont des nouveau-nés.
Alors, justement, par rapport à le point que tu viens d'aborder, les valeurs de la France, ta réaction c'est quoi finalement ?
Je suis toujours un peu, étonné quand j'entends la France doit être porteur de valeurs partout dans le monde. Le président de la France doit interpeller ses partenaires ou ses interlocuteurs dans les différents pays lorsque ceux-ci ne respectent pas ce que l'on considère comme les droits de l'homme. Et selon mon appréciation, je trouve qu'en ayant les pratiques dont on vient de parler, la France elle-même ne respecte pas les droits de l'homme, ne respecte pas les droits de l'enfant inscrits dans la charte ou la déclaration auquel on se réfère. Et donc ça, je m'en étonne. Bon, je sais que la France a déjà été condamnée pour mettre en rétention des enfants avec leur famille. Bon, on en parle beaucoup en ce moment suite à ce qui s'est passé aux États-Unis. Est-ce que la France ne devrait pas être condamnée aussi par la Cour européenne pour mettre à la rue des personnes qui sont en situation précaire alors qu'on a la possibilité de les laisser vivre peut-être davantage dans des endroits, dans des logements qui ne sont attribués à personne et pour lesquels il n'y a pas de risque à les y laisser?
Alors notre réflexion, on a beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens qui évoquent les aspects économiques concernant les étrangers, de manière générale. C'est aussi un petit peu le courant Front National qui pose ce type de questions en disant l'immigration nous coûte cher. Comment tu réagis à ça ?
Moi, ça fait maintenant 8 ans donc que j'accompagne des familles. Et ma conviction est faite que ça coûterait beaucoup moins cher aux citoyens français, à l'État français, d'accompagner les familles dans leur intégration dans notre société, de leur donner les moyens aussi de participer, en fin de compte, à l'économie du pays, plutôt que de mettre de l'argent dans des moyens pour leur faire la chasse, en fin de compte, pour les relancer, pour qu'ils quittent les endroits où ils sont, pour qu'ils soient, je veux dire, en règle, alors qu'on ne les accompagne pas pour qu'ils le soient.
Parce que tu parles de moyens pour les expulser, il y a vraiment beaucoup d'argent qui est mis dans ces expulsions ?
Eh bien, de toute façon, il y a déjà de nombreuses visites de huissiers. Je pense qu'ils ne travaillent pas pour rien, les cabinets d'huissiers. Il y a des passages de police. Les expulsions nécessitent la présence de forces, de traducteurs, etc. Les plaintes qui sont déposées nécessitent aussi d'avoir recours aux tribunaux. Il y a souvent des recours qui nécessitent aussi d'avoir affaire à des avocats. Tout ça, ça coûte. Et est-ce que cet argent ne serait pas mieux utilisé en facilitant l'intégration de ces personnes ?
Alors j'ai une toute dernière question. Après, je te laisserai la parole pour amener la conclusion que tu souhaites. Les logements qui sont maintenant vides, puisqu'on a expulsé les familles, quelles sont les perspectives ? Ils vont être réutilisés pour d'autres familles ?
Non, comme je le disais au début de notre entretien, l'expérience montre que dans 90% des cas, ces logements restent fermés, à nouveau grillagés, ou avec les ouvertures qui sont parfois détruites et bouchées par des tôles ou par des parpaings pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années. Quelques-uns, parfois, font partie, comme je l'avais dit, d'un programme de réhabilitation avant réaffectation à des familles qui en ont fait la demande.
Très bien, je te remercie. Jacques, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ?
Oui, juste un mot, dire que j'ai entendu cette semaine là, quelqu'un qui faisait cette réflexion en disant que les démocraties avaient plus à gagner à rester sur leurs valeurs et les valeurs de respect de l'humain, même si à court terme ce n'est pas payant, parce que à glisser vers d'autres valeurs qui sont celles de l'exclusion, du rejet, eh bien en fin de compte, elles travaillent contre elles-mêmes et elles travaillent contre ce qu'elles veulent être en tant que démocratie.
Eh bien, je te remercie Jacques pour cette conclusion que j'invite nos auditrices et nos auditeurs à méditer. Et puis, bonne continuation dans ton activité auprès des familles.
Merci.
Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo. Micro Rebelle Hebdo est diffusé en direct chaque vendredi de 18h à 19h sur micro-rebelle.fr. Est rediffusée sur les ondes de Radio PFM 99.9, radio associative libre et sans pub, et de Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois.
Eh bien, une autre actualité à venir, cette fois-ci, concerne encore la solidarité internationale. Pas avec les Roms, mais avec les migrantes et les migrants. Il s'agit de la marche citoyenne pour les migrants qui a démarré de Vintimille à Roya le 30 avril dernier, et qui sillonne la France pour arriver à Londres le 8 juillet. Avec cette marche, c'est tout un réseau de bénévoles engagés pour la cause des réfugiés qui se tisse. Et c'est une démonstration concrète comme quoi les marcheurs ne sont pas à l'Élysée ni à l'Assemblée nationale, mais sur les routes de France, tout profil et toute génération confondue, contre les frontières, pour la liberté de circulation. Nous sommes mi-juin, la marche a atteint Paris et se dirige à présent vers le nord. Nous signalons maintenant deux étapes que vous pourrez rejoindre pour indiquer vous aussi votre soutien et contribuer à cette belle initiative. Tout d'abord, le samedi 30 juin, c'est l'étape Orchy-Lille. Vous pouvez par exemple vous rendre à la gare de Seclin, où les marcheurs sont attendus à 11h30. De là, marche vers Lille et à 15h, place de la République à Lille. Prise de parole des organisateurs et des exilés lillois. À 15h30, départ de la marche accompagné de sa fanfare jusqu'à la gare de Lille-Flandre et à 18h, rendez-vous à la Bourse du Travail de Fives pour une table ronde et des prises de parole des associations. Vous pouvez également rejoindre l'avant-dernière étape, le samedi 7 juillet, entre Gravelines et Calais. Dans cette perspective, nous signalons l'initiative de la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais qui contribue à la réussite de cette dernière étape en faisant partir des quarts de 5 points du département afin de faciliter la participation des habitantes et habitants avec des départs des territoires de Saint-Paul-sur-Ternoise, d'Arras, d'Hénin-Beaumont, de Lens et de Béthune. En particulier, les départs en quart seront organisés au lieu et horaire suivant. À Hénin-Beaumont, à 13h30, devant l'Escapade, rue de l'Abbaye. À Liévin, à 14h, devant Arc-en-Ciel, place Gambetta. À Béthune, à 14h30 au péage. Faites cependant attention, l'aire de stationnement est en travaux, il faut se garer dans la zone commerciale. Départ de Saint-Paul-sur-Ternoise, à 13h15, place de la Mairie. Et enfin, départ d'Arras à 14h15 sur le parking de la Ligue de l'enseignement, 55 rue Michelet. Ces départs en quart, en début d'après-midi, permettront de rejoindre la marche à 16h à l'angle de la rue Foissé et de l'avenue Saint-Exupéry à Calais pour un moment symbolique, le franchissement des portes de la ville. La Ligue de l'enseignement organise pour l'occasion une soirée solidaire avec le programme musical suivant. Hassan Sudani, c'est du blues, Zakaria, de la musique soudanaise, Manbous, du reggae, Music for All, c'est un plateau métissé de musique du monde. Le retour est organisé en quart, à deux horaires différents. Un quart partira à 21h et le suivant à 20h30. Notre rubrique actualité est maintenant terminée. Je laisse la parole à Luc et à nos deux invités.
Voilà, nos deux invités, Anne-Marie Marzin et Philippe de Cuypère, merci d'être venus. On va parler de la grève qu'il y a eu à Auchan en ce début de mois. Avant ça, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter quel poste vous avez à Auchan, en quoi consiste votre travail ?
Ben, j'ai commencé, je me présente, Philippe de Cuypère, je suis employé commercial, conseiller commercial à Auchan Noyer-Godault. Je vends du matériel photo, vidéo, mais également du multimédia. Et voilà, le but, c'est de bien renseigner nos clients et qu'ils soient surtout bien satisfaits de tous ces produits modernes, quoi. Hein. Voilà.
Anne-Marie.
Alors moi, je travaille à Auchan depuis 35 ans. Je suis hôtesse d'accueil.
Je voulais apporter, pour commencer, quelques précisions sur le groupe Auchan. Qu'est-ce que c'est ? Donc, en plus d'être une holding divisée en trois entreprises, vous me direz si je me trompe, hein, parce que c'est un peu compliqué.
Très compliqué.
Ouais. En trois entreprises, donc Auchan Retail, Immochan et Honnet Bank, le groupe appartient à l'association familiale Mullier, qui possède, entre autres, Kiabi, Decathlon, Leroy Merlin, Midas, Noroto, Tape à l'œil, Brise, Jules, Pimki, Top Office, Cultura, Pizza Pie et encore d'autres.
Alinéa, par exemple, également.
Alinéa, Flunch, Boulanger, Kiloutou. Ouais. La liste est trop longue.
Oui, trop longue, oui.
Donc, l'association, c'est un groupement d'intérêts économiques composé de 500 membres, principalement de la famille, de proches, et qui pèse, dans les estimations les plus hautes, 40 milliards. On estime que le groupe est tellement large qu'un euro sur 10 dépensé par les ménages français va chaque jour dans les poches de l'une des entités du groupe. L'autre spécificité de la famille Mullier, c'est la pratique experte de l'optimisation fiscale, qui est un euphémisme pour parler d'évasion. Gérard, père fondateur, et d'autres membres de la famille ont par exemple émigré à Neschin, qui est juste à la frontière belge, pas très loin de Roubaix et Tourcoing, pour bénéficier des avantages fiscaux envers les grandes fortunes, avantages que concède plus facilement le gouvernement belge. Parmi eux, il y a également Patrick Mullier qui ne paye par exemple que 135 euros d'amende pour 1,1 milliard d'euros de revenus pour l'année 2014.
134 euros d'impôts.
Pardon, d'impôts.
Non, oui, pas d'amende.
Oui, non, je dis amende parce que ça doit être un lapsus parce que je ne sais pas si c'est lui, mais il y a eu des soupçons de fraude fiscale il n'y a pas si longtemps que ça.
Il a été dénoncé, lui qui a été dénoncé par sa femme.
Exactement.
En plus.
C'est un divorce qui a mal tourné.
Ça reste en famille.
Ça, voilà, c'est bon. voilà. Enfin, c'est une présentation que j'estimais importante parce qu'il faut bien comprendre que ces multiples entités permettent des galipettes rentables et communicationnelles et qui, sur lequel repose le fonctionnement économique du groupe. C'est-à-dire que chaque entité est une sorte de variable d'ajustement. C'est-à-dire que quand Auchan dit que les chiffres d'Auchan, les supermarchés Auchan est catastrophique, le groupe Auchan ne perd pas d'argent parce qu'il se rattrape sur l'immobilier, par exemple. Il n'y a jamais de perte, sauf au détriment des salariés.
C'est, d'ailleurs, c'est pour ça que ils séparent Immochamp d'Auchan. Hein, c'est parce qu'il y a un plus gros gâteau avec Immochamp qu'avec les grandes surfaces actuellement. Hein. L'avenir des grandes surfaces est plutôt... Elle n'est pas pérenne en tout cas.
Ouais, donc c'est pour éviter d'avoir à partager le gâteau d'Immochamp avec les salariés des supermarchés Auchan.
Il vaut mieux garder les plus grosses parts pour eux. Quoi. Hein.
Alors avant d'entrer dans les détails du mouvement de grève à Auchan, est-ce que vous, salariés, vous êtes au courant justement de comment fonctionne cette stratégie économique ? Est-ce qu'il y a une transparence là-dessus ?
Bon, on ne connaît absolument rien de tout ça. Hein. Nous, on a nos participations. En fin de compte, ça fait partie des actions Auchan. Hein. Et là, d'ailleurs, cette année, elles étaient en négatif en plus. Donc, si vous aviez de l'argent placé à Auchan, vous en avez perdu.
En tant que salarié. D'accord.
Donc, ça s'est élevé à plus de 4% quand même. Non ?
Mais justement, en tant qu'actionnaire, est-ce que vous n'avez pas le droit à...
On peut rien dire.
Aux informations.
On peut rien dire.
Aux informations, non ?
Bah, quelles informations ? Tout est bouclé, hein, de toute façon. Hein.
D'accord. Donc, la grève, ça a été une journée de débrayage le 2 juin.
Alors, c'était pas un débrayage, c'était une grève.
Bah, justement,
parce que justement, au départ, on avait proposé au personnel de faire un débrayage. Et ben non, ils ont voulu une grève. Une grève, c'est vraiment s'arrêter de travailler pendant la journée, quoi, et non pas s'arrêter une heure ou deux heures. Un débrayage, c'est s'arrêter une heure ou deux heures.
Et est-ce que ça a été suivi massivement à Noyelles-Godault, ça représente...
Pour nous, c'était quand même... on était environ entre 100 et 150. Pour nous, c'est énorme quand même, quoi.
Sur combien d'employés ?
En tout, sur le magasin, on est 630, 640. Hein. Mais bon, il y en a qui arrivent à minuit, qui repartent à 5 heures. Voilà, tout le monde n'est pas là au même moment dans le magasin.
Ouais, mais il faut enlever aussi les CDD,
tout ce qui est
les intérims.
Eux, ils font pas grève, évidemment, puisque ils disent bon, bah, si je fais grève, on va me garder. Ça, c'est sûr.
Ouais.
Voilà, déjà,
Donc, en fait, les embauchés ont bien suivi, bien sûr, après les autres. Peur hein, aussi de perdre leur emploi.
Ils ont surtout peur des pressions, hein. C'est ça. Mais bon, vous estimez 150 personnes, des hôtesses de caisse, hein, des mères de famille qui viennent faire grève, c'est quand même quelque chose, quoi. Hein. Et c'était dans la majorité, on va dire, hein, en plus.
Surtout, j'ai envie d'ajouter que dans la grande distribution, bon, là, en ce moment, il y a un grand mouvement aussi à Carrefour, mais dans la grande distribution, les mouvements de grève sont plutôt rares.
Ben oui, parce que bon, tant que vous avez peut-être des petits salaires, mais quand vous compensez avec des primes, bon, le personnel ne dit rien parce que bon, ils vivent bien. Mais quand ils se rendent compte que, bah, en fin de compte, ils sont très mal payés parce que il n'y a plus de primes, hein, ils ont des salaires de misère, ils n'arrivent plus à boucler la fin de mois. Hein.
Donc ça faisait partie de la stratégie de l'entreprise que donner des primes conséquentes. Ben, pour en quelque sorte que les gens
ça calme les esprits, hein. Ouais. Le jour où vous vous rendez compte que quand vous partez en retraite, vous gagnez une certaine somme en travaillant, et quand vous repartez en retraite, il vous reste quoi, les trois quarts, d'accord, parce que les primes ne rentrent pas dans votre retraite.
Oui, effectivement,
ça c'est important de le dire, hein.
D'accord.
Vous avez, admettons, un salaire, on va dire, moyen de 1800 euros à l'année, par mois, en moyenne, on va dire, avec les primes. Hein, c'est plus actuel. Hein.
Et il y a 30 ans, ça.
Oui, voilà.
Il y a 30 ans.
Enfin, ouais. Quand même.
il y a longtemps qu'on gagne.
Actuellement, le personnel, il se retrouve avec le SMIC, quoi. Et en plus, on prend les hôtesses de caisse, il y a beaucoup de petits contrats. Ah, il y en a très peu qui font 35 heures. Hein. Ouais.
Donc on parle de chiffres, de salaires et de primes parce que à l'origine du mécontentement, ce sont les négociations salariales annuelles,
oui.
Si je ne m'abuse. Concrètement, qu'est-ce qui a amené la rupture ? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup les gens se sont mis en grève ?
Ils nous ont mis une augmentation de salaire de 1%. Souvent ils font ça en deux fois. Hein. Donc en plus vous voyez rien sur votre fiche de paie, ça fait quoi ? Les 10 euros quoi. 10 euros par mois, c'est ridicule, quoi. Hein ?
Et 7 pour les cadres.
Et 7 pour les cadres. Donc, c'est un petit peu, c'est quand même grave, quand même. Hein ? Celui qui bosse, hein, celui qui fait fructifier l'entreprise, c'est le petit personnel, quoi. Hein, les cadres, bah, c'est... ils mènent à la baguette, quoi.
Hein, ouais. Alors, toujours quelques chiffres que j'ai trouvés. Donc, pour les salariés, les chiffres qu'on donne, c'est moins 1,5% de revenus en moyenne par rapport à l'inflation, une chute de 35% de la participation et un actionnariat qui baisse de 4%. Donc c'est ça, les actions auxquelles participent les employés ils ont perdu
un peu
baissé. D'argent.
C'est comme si vous avez de l'argent sur un plan épargne, qu'on vous dit, bah, cette année, vous n'aurez pas 2 ou 3% de plus, on va vous prendre 4% de votre argent. C'est ce qui s'appelle des actions.
De l'autre côté, les actionnaires, donc c'est 200 millions d'euros pour l'actionnariat en 2015, 350 millions d'euros en 2016, donc une augmentation de 150%, je crois. Et en 2017, alors que l'entreprise Auchan communique sur la situation catastrophique de l'entreprise, l'optimisation fiscale permet tout de même à la famille Mullier d'augmenter ses gains de 20%.
Voilà.
C'est quoi le ressentiment ou le sentiment plutôt au sein des salariés de l'entreprise?
À votre avis, plus de partage de gâteau, hein? On garde le gâteau pour soi. Voilà, c'est ce qui se passe, hein. On donne plus, on donne les miettes au personnel.
Hein. Et donc c'est ça qui a entamé la grève, pourquoi
Et là vous parlez que de Auchan France.
Oui, ouais, parce que là on parle que d'Auchan France.
Parce que le Auchan France, à la base, a donné beaucoup d'argent pour ouvrir dans d'autres pays.
La Russie,
au
la
départ,
Chine.
Ces pays, une fois bien en route, devaient nous rembourser.
Sauf que...
Mais on n'a jamais été remboursé.
Sauf que maintenant ils ont séparé.
Ah oui.
Voilà, il y a le holding Auchan, mais il y a Auchan Retail France. Donc on n'est plus que la France. Voilà. Avant, on profitait par exemple des bénéfices de la Chine, de la Russie. Donc tout ça, ça rentrait. Et après, on partageait le gâteau. Maintenant, mais il n'y a plus que la France. C'est comme il reste des miettes en France. On n'a plus rien, quoi. Voilà.
Puis de plus en plus d'ayants droit, hein, du fait qu'ils rachètent. Là, ils ont les Simply Market. Maintenant, c'est Auchan. Donc. Voilà. Droit à la part du gâteau aussi, donc plus on est nombreux, ben forcément.
La part du gâteau est petite.
Alors pour revenir sur la grève, comment elle s'est organisée? Ça a été intersyndical
Oui, justement, c'est une grève qui s'est préparée sur 3 jours, qui à l'origine aurait dû être nationale. 3 syndicats qui s'étaient lancés au départ, hein, on peut les citer.
Oui, on peut.
C'était la CFE...
CFDT, FO et CGT.
Voilà. Hein. Et puis bon, quand nous, on a pris donc contact avec les employés pour lancer la grève, quoi. Hein, la CFDT s'est retirée. Bon, après, les autres, ils ont dit, de toute façon, si c'est ça, nous, on arrête, on ne fait pas de grève. Ouais, mais bon, vous êtes allé voir le personnel, vous dites, voilà, on fait grève, ils sont prêts à faire grève. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites grève. Donc, on a fait grève. Il y a eu quelques magasins comme Dunkerque, Calais, qui ont fait grève également. Hein.
Ouais,
il n'y a pas que Noyelles. Hein.
5. Mais bon,
il y a Clermont.
Alors à la base, ça devait être une grève nationale,
oui,
intersyndicale,
oui. Voilà.
Dans tous les Auchan.
Oui,
et
France, ouais.
Et au final, vous êtes retrouvés.
Au final, on s'est retrouvé le bec dans l'eau, on s'est retrouvé tout seul. Et ben, nous, on y va quand même, on va quand même faire la guerre.
D'accord.
Oui.
Et donc, les arguments qu'ont fourni les autres syndicats, c'était quoi?
Ils ont dit que de toute façon ça va pas marcher. La CFDT, ils ont dit ça va pas marcher, donc on laisse tomber.
Donc la résignation.
Oui, voilà. Oui. Ou je sais pas, ou ils ont peut-être eu quelque chose, ou je sais pas. Après, c'est du marchandage après derrière.
Nous, on nous achète pas.
Nous, on nous achète pas, non.
Quelles ont été les revendications?
Alors, tout ce que le personnel voulait, c'était même pas une augmentation de salaire, puisque ça se fait en centrale, donc dans le groupe. Donc nous, au magasin, on peut pas comment réclamer une augmentation de salaire. Ce qu'on demande, c'est une prime de vacances de 250 euros. Hein, parce que là, actuellement, on a une soi-disant prime de vacances sur notre salaire à peu près de 100 euros, mais qu'on nous retire sur notre 13e mois. Donc on peut pas appeler ça une prime de vacances.
Si j'ai bien compris, il n'est pas possible de réclamer une augmentation de salaire, parce que ça fait pas partie des prérogatives.
Ben, voilà, le directeur, lui, peut pas décider d'une augmentation de salaire. Ça, c'est décidé en centrale. Donc entre les syndicats à haut niveau. Quoi. Alors, c'est de la négociation annuelle. Quoi.
Et alors, c'est le comité central d'entreprise. Voilà.
Anne-Marie, toi, tu voudrais réclamer des bras
Ben oui.
Qu'est-ce que ça signifie?
Ben, on veut des gens, parce que là, on gagne de moins en moins, mais on fait le travail. Au départ, c'était ton travail, ma travail de deux, maintenant, c'est le travail de trois.
Alors, maintenant, tu dois être polyvalent, quoi. Donc, hein, tu dois pouvoir aller travailler à un tel endroit, à un autre endroit, à un autre poste, donc une autre... C'est pas le même métier, hein, mais il faut que tu le fasses, pour le même prix.
Comment a réagi la direction?
Ah bah, très en colère, hein. Je ne s'attendais pas à ça. Hein. En plus, malheureusement, pour lui, le directeur est en vacances. Alors, voilà, il a dit...
Vous avez gâché ses vacances.
Vous avez profité de mon absence pour faire grève. Dire, oui. C'est pas lui qui nous fait peur. Hein, problème,
il était où en vacances?
Au voilà. Laos.
Ouais. Ah. Nous, on n'a pas les moyens d'aller là-bas. Hein.
Alors, on lui a gâché ses vacances.
Ah ouais, on a gâché ses vacances. On est déçus. Hein.
Ouais, mais vous avez été reçu
On a été reçu, oui. Trois jours après.
Par le directeur, parce que je pense qu'il ne va pas revenir du Laos pour...
Par le directeur, mais quand il est rentré.
Ah d'accord.
Le lundi, oui.
Et ça s'est passé, comment?
Oh bah, il était plutôt un peu en colère, quoi. Hein, mais bon, on lui a dit qu'une grève, c'est pas nous, donc il ne va pas être en colère. Hein, c'est tout le personnel. Hein, si le personnel... Si vous êtes dans la rue, c'est parce que ça ne va pas. Hein, si on est dans la rue, c'est parce qu'on ne nous écoute pas. Si on nous écoutait, on ne serait pas dans la rue.
Hein? Donc là, c'était début juin.
Le 2.
Le 2 juin. Vous avez été reçu un petit peu après.
On a été reçu le mercredi d'après.
Pour lui donner nos revendications, en fait.
Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est?
On aura entretien lundi à 14h30. Hein?
Oui, 14h30, ils vont nous recevoir parce qu'ils ont fait un petit peu le bilan avec le personnel. Ils ont reçu le personnel, hein, chacun leur tour, hein, pour leur demander... Hein. Mais bon, quand ils sont devant leur chef de secteur, bah, ils sont pas à l'aise, quoi. Donc bon, ils ont plutôt la trouille. Hein, donc moi, je sais ce qu'il va nous dire mercredi, mais c'est pas grave.
Non, c'est lundi.
Lundi. On lâche pas, quoi.
Donc ce qui se profile, c'est une poursuite du mouvement de grève.
Tout à fait.
Sous quelle forme?
Là, pour l'instant, c'est les vacances, donc malheureusement, il y aura un manque de mobilisation, je pense. Hein. Et du coup, on attend plutôt la rentrée parce que bon, vous savez que Auchan est en travaux.
Auchan Noël Godot
est en travaux. On voit une superbe galerie marchande pour les riches. Hein. Donc, ce n'est pas le personnel d'Auchan qui pourra aller dedans, hein, parce qu'il n'aura pas les moyens de se payer les vêtements qui vont s'y vendre.
C'est une galerie de luxe.
Bah oui, on peut dire que c'est des grandes marques qui viennent à Noël Godot. Ils espèrent que... Les clients viendront de Bruxelles et même de Paris et même de Londres, s'il vous plaît.
Mais c'est un investissement désespéré. Pourquoi quelle est la stratégie? Parce qu'ils donnent des chiffres prétendument catastrophiques. Donc est-ce qu'ils font ça avec l'énergie du désespoir à Auchan?
Bah, ils préfèrent investir dans l'immobilier. Que dans le personnel ou que dans les magasins. Les magasins, bah, plus ou moins, nous, on va... Avant, le moteur de la galerie marchande, c'était le magasin. Maintenant, pour le magasin, ça va être la galerie marchande. Donc avec cette galerie marchande de luxe, on va attirer plus de monde en espérant qu'ils vont faire leurs courses dans le magasin. Vous voyez, on a retourné le bénéficiaire, en fin de compte. Hein. Le bénéficiaire, au départ, c'était la galerie marchande. Donc bénéficier de la compétence, hein, et du commerce de la grande surface. Et aujourd'hui, ce sera l'inverse. Ce sera la grande surface qui, grâce aux clients qui vont aller dans la galerie marchande, espère qu'ils vont faire leurs courses dans le magasin.
Voilà. D'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a également un mouvement de grève à Carrefour. Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas... une espèce un dialogue qui a été amorcé avec d'autres enseignes, parce
alors,
que cette crise des supermarchés, enfin,
on n'en est pas encore là, hein, mais bon, Carrefour, ils ont fait leur grève, je crois qu'ils l'ont bien réussi, hein, malgré tout, ils se sont bien battus, ils ont réussi à avoir pas mal de choses, parce que c'était pas une grève, c'était une guerre, quoi.
Ouais, voilà. Mais c'était national,
c'était national,
dans toute
déjà.
La France, oui, les Carrefour, c'était sur la fermeture,
voilà, ils sont tous mobilisés. Suppression de postes, voilà, c'était une autre thématique. Mais...
Et puis en plus, hein, comme le PDG qui s'en va, il se touche, je ne sais plus, 12 ou 14 millions d'euros, alors qu'il y a des gens qui vont être licenciés, c'est un peu gros quand même, quoi. Hein. Non, par contre, quand on a fait notre grève, on a eu des gens de chez Carrefour qui sont venus avec nous, nous encourager.
D'accord.
Ouais. Et puis très très bien. En plus, on peut le citer. Hein, c'est en plus c'était pas la CGT, c'était FO. Hein, donc, parce qu'on était avec FO en intersyndical. Hein.
À moins qu'il y a quelque chose à ajouter sur ce mouvement de grève, je change un petit peu de sujet. Parce qu'on parle de la grande distribution, est-ce que dans la grande distribution, dans les supermarchés et dans les syndicats de la grande distribution, est-ce qu'on commence à ressentir le contre-coup de la loi travail ?
Ça commence, oui.
Déjà,
la loi El Khomri, qui a permis à Auchan de créer son syndicat propre, qui s'appelle SEGA, syndicat des entreprises du groupe Auchan. D'accord ?
D'accord.
Donc, aux dernières élections... ils ont réussi à faire venir du personnel qui leur permet de faire voter des actions en CE. D'accord ?
Voilà, en fin de compte, ils créent un syndicat.
Ils ont le droit maintenant, oui.
Ils font venir des. Bon, c'est du personnel
c'est
quand même.
Du magasin, bien sûr.
Il y a des gens qui consentent à faire partie de ce syndicat.
Voilà, tout à fait, oui. Pendant la guerre, on appelait ça des collabos.
On peut.
Hein, mais c'est comme ça qu'on les appelait. Hein.
Donc, qui viennent en fait monopoliser le dialogue social à la place des syndicats historiques. C'est ça.
Voilà,
c'est ça l'idée, si j'ai bien compris. Ouais, je découvre.
Ça. Non, non, mais c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il faut en parler, quoi, parce que ces gens-là, en plus, ils profitent d'être élus pour négocier après des augmentations de salaire. Bien sûr, on me l'a dit. Mais personne ne me l'a dit, en plus. Donc,
d'accord.
Personne concerné.
Et ouais,
on n'a pas d'augmentation de salaire parce qu'on est CGT, hein, je vous le dis. Hein.
J'imagine.
Bon, enfin, c'est pas augmentation de salaire, c'est...
Hein, ou prime.
Des primes...
Non, mais là, c'était carrément un changement de coefficient. Un changement de coefficient, c'est que tu montes quand même en...
Ah, mais justement, c'est réglo, tu peux rien faire.
Ah oui, tu peux rien faire.
alors, j'ai lu aussi que, en prétendant des chiffres à la baisse... on avait demandé des efforts. C'était précédemment, les années précédentes, Auchan a communiqué auprès de ses employés.
Oui, il y a eu une période, ils ont fait un PSE pour les cadres. D'accord ? Donc, ils permettaient aux cadres de partir avec une belle enveloppe. Hein ? Mais il fallait qu'ils aient un projet extérieur. Donc, ils ont joué le jeu, les cadres sont partis avec de très grosses enveloppes. Hein, qui dépasse les 100 000 euros. Et du coup, on a perdu tous nos meilleurs cadres. Et ils ont dit, mais ça ne fait rien, on va donner la main au petit personnel qui va faire le boulot.
D'accord,
enfin, le petit personnel, il n'est pas con quand même, quoi. Enfin, il y en a quand même quelques-uns qui sont cons, qui l'ont fait quand même, quoi. Hein, mais après, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien. Alors nous, on en a parlé, bah, comment que ça se fait comment vous allez rémunérer ces personnes? Parce qu'après tout, toute peine mérite salaire. Hein. Ah ben on va voir si on peut leur donner une carte cadeau. Voilà la réponse qu'on nous a donnée. Vous vivez avec une carte cadeau ? Ben moi pas.
Donc ça a été aussi un des mobiles en voyant qu'il n'y avait qu'un pour cent d'augmentation de salaire.
C'est la continuité, quoi. C'est à force, les gens ne supportent plus, quoi. Voilà. Donc ils sortent, ils arrêtent et ils font grève.
Donc on va conclure là-dessus. Enfin, les conditions de travail dans la grande distribution et spécifiquement à Auchan, ça se dégrade
Ça s'est dégradé depuis plusieurs années,
est-ce
oui.
Est-ce qu'on peut essayer d'illustrer
parce que là, on travaillait, aller en famille, on va dire, hein, de bonne foi, bon moral, tout allait bien, jusqu'au moment où ils ont pu permis au personnel de prendre des initiatives. Avant, on prenait des initiatives, on disait, allez, ça va, ça marche pas, ben, c'est pas grave, on aurait essayé. Hein. Et aujourd'hui, le personnel, il veut plus, quoi. Ça n'intéresse plus. Et puis, il n'est plus payé.
Ah, c'est surtout ça.
C'est ça.
Il
hein,
faut faire le travail de...
Voilà, hein. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein. Pour les capitalistes, comme pour les petits. Hein.
Comme ouais, moi, hôtesse d'accueil, je devrais aller faire du service après-vente, développer des photos, attendez, bon...
Et faire des crédits.
Et faire des crédits avec la banque au nez. Désolé, ils sont payés plus que moi, il faut augmenter mon salaire.
C'est pas le même métier quand même. Quoi.
Ceux qui ne font pas.
Vous travaillez dans une banque, je suis désolé, quoi, vous avez des responsabilités. Hein. On ne peut pas demander à des gens, hôtesses d'accueil, de faire un boulot de banquier.
Et toujours, on en parlait en rantaine avec l'épouvantail du chômeur.
Voilà, tout à fait. Bah oui, ça...
on va conclure là-dessus. Écoutez, merci d'être venu dans nos studios. Donc, je rappelle, Anne-Marie Marzin.
Merci de nous avoir invités, en tout cas.
Délégué syndical, militant, CGT. Et vous avez participé à la grève d'Auchan Noyelles-Godault qui se poursuit des nouvelles à venir.
Voilà, tout à fait.
Oui, effectivement, merci Anne-Marie, merci. Philippe. Hein.
Merci
on est
Luc.
Toujours.
Merci Luc, merci Lucien.
Notre antenne est. Merci Luc également.
Merci Lucien. C'est le grand moment de remerciement.
On est toujours très, très content à Micro Rebelle d'ouvrir notre antenne à des travailleuses et des travailleurs qui luttent, hein, qui luttent pour eux, pour leurs conditions de travail, pour leurs conditions de vie, qui luttent aussi pour une autre conception de leur métier, notre conception de l'économie, notre conception de la société, hein, peut-être d'une manière générale. Et donc c'est aussi un appel hein, qu'on peut lancer ce soir à toutes les luttes qui se déroulent dans le bassin minier. Hein. L'antenne de Micro-Rebelle est largement ouverte pour relayer vos mobilisations.
Le retour au germinal.
On peut peut-être le dire comme ça. Écoutez, on va faire une petite pause musicale avant de conclure notre émission. On vous propose d'écouter Melpé et son album Nouvelles de la Jungle. Donc c'est un croisement de plusieurs styles. On écoute le deuxième morceau de cet album. Il s'intitule Fabulous Unity Néoplastique Chaotique.
On dirait tant.
Eh bien, notre émission se termine. Merci de l'avoir écouté. On va finir par quelques informations qui concernent Micro Rebelle, justement. Notez bien la date de l'Assemblée Générale de notre association. Ce sera le samedi 7 juillet à 10h, en nos locaux, 197 bis rue Émile Zola à Liévin. Le matin se tiendra l'Assemblée Générale en elle-même. C'est l'occasion de faire un retour sur l'année écoulée, une année particulièrement riche en projets, qui nous donne de belles perspectives pour l'année à venir. L'Assemblée Générale se termine par un barbecue fraternel. Et notre Assemblée Générale et ce moment convivial qui suit concernent bien évidemment nos adhérentes et nos adhérents, mais également nos amis et nos auditrices et auditeurs. N'hésitez donc pas à bloquer cette date du samedi 7 juillet à 10h. Pour le barbecue qui suit, Micro Rebelle s'occupe de la viande et des légumes du barbecue. De votre côté, pensez par exemple aux boissons et aux desserts. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à nous solliciter pour des reportages, des chroniques, des débats radiophoniques. On termine par de la musique libre. Très bonne semaine à toutes et à tous, et à la semaine prochaine, dès 18h.
Ce Micro Rebelle Hebdo se termine sur microrebelle.fr et sur les ondes de nos amis de PFM 99.9 et de Radio Plus 104.3. Nous terminons par de la musique libre, et je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien.
Ce Micro Rebelle Hebdo se termine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous, et à la semaine prochaine.